Moi, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous et vous remercier d'être venus et d'être venus parfois de loin. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'organiser cette journée au département de la recherche et de l'enseignement. Je suis non pas Frédéric Keck, qui est directeur du département, mais son adjoint Julien Clément. Et Frédéric, en fait, Keck est à aujourd'hui là où tout a commencé, si j'ose dire, puisqu'il est en train de faire passer les auditions du LabExCap pour sélectionner les futurs lauréats des bourses postdoctorales dont ont été titulaires les trois organisateurs. Donc c'est vraiment l'occasion du coup de souligner l'intérêt de ce LabEx pour le musée et de manière générale les rencontres qui se produisent ici à travers à la fois le LabEx et puis de manière plus générale aussi au sein du musée entre des gens qui au départ avaient des formations et des objets parfois différents, parfois éloignés, qui se connaissaient pas forcément et qu'on arrive à rassembler à travers ces différentes institutions. Voilà, vous en avez on en a aujourd'hui tous le résultat à travers cette journée, en tout cas le premier résultat. Et donc je voulais d'abord vous féliciter pour tout ça, parce que c'est super d'organiser ça comme une espèce de, puisque vos bourses arrivent bientôt à terme, d'arriver à avoir cette journée en fin de parcours. Et vous dire aussi que c'est un grand plaisir, ça a été un grand plaisir d'avoir Martha, d'accueillir Martha cette année au musée. Et pour Julien qui est un ancien boursier, et avec Nathan, de pouvoir... comme ça, avoir les voir apparaître toutes la fécondité de ces rencontres et de ce que le LabEx et le musée produisent. Voilà, je voulais juste vous dire ça et m'excuser pour Frédéric de ne pas pouvoir être là, puisque pour les raisons que je vous ai indiquées. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée d'études, de joyeux échanges. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Julien. L'actualité du continent africain, dans le prisme des médias occidentaux, donne trop souvent à voir les conflits armés, les crises politiques ou les guerres civiles qui agitent tel ou tel pays. Aujourd'hui, c'est la lutte contre Ebola qui focalise l'attention des médias occidentaux, lutte qui est présentée comme une guerre. Le front contre la maladie paraît alors redoubler l'intervention des forces internationales dans la lutte contre le terrorisme, entre guillemets. Alors bien sûr, on doit s'interroger sur un tel parallélisme entre deux fléaux, de deux ordres pourtant différents, hein, terrorisme d'un côté, épidémie de l'autre. Mais dans les deux cas, l'engagement de forces internationales ne se traduit pas seulement en termes d'effectifs déployés ou de moyens financiers à mobiliser, mais aussi de transfert de notions et de pratiques sur le terrain des opérations. La prise en charge des malades d'Ebola repose sur une logique du soin, qui rejoint l'attention que portent des institutions internationales, des ONG, des médias occidentaux à la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. La conservation du patrimoine est désormais pensée comme une pratique de soin. Alors, un reportage télévision rendait bien compte de cette analogie lors de l'occupation du Nord-Mali par la coalition de rebelles Touareg et d'islamistes radicaux début 2013. Je cite un passage de ce reportage. « Un Tombouctou a du mal à se remettre du passage des islamistes. C'est le patrimoine culturel de la cité du Nord du Mali qui a le plus souffert. » Et le titre me semblait révélateur, le titre du reportage. « Tombouctou soigne son patrimoine grâce à l'UNESCO. » Alors cette idée d'un patrimoine dont il importe de soigner les souffrances est bien sûr intéressante par les analogies qu'elle évoque et par la personnification qu'elle donne à entendre des objets patrimoniaux. Et bien, on n'insistera jamais assez sur l'attachement des populations à certains biens culturels, sur la terrible émotion qu'elles peuvent éprouver quand les traces d'un passé commun sont attaquées, effacées. L'idée de cette journée d'études est d'ailleurs née d'une telle fascination pour la puissance évocatrice de la destruction patrimoniale, sans que l'on sache pourtant très bien où, pour nos cas personnels, à Nathan, à Martha et à moi, on pouvait situer les ressorts de cet intérêt. Cet intérêt, cette interpellation, ont-ils d'abord fonctionné sur le registre d'une sorte d'universalité des émotions ressenties en cas d'attaque contre un patrimoine labellisé mondial ? À mon sens, à notre sens, il faut se méfier d'une telle illusion universaliste. La notion de patrimoine, les formes d'attachement au passé connaissent des variations culturelles qui nous obligent à relativiser la globalisation des émotions patrimoniales. L'origine de cette journée d'études est davantage à chercher dans nos propres sujets de recherche et dans nos propres terrains de recherche, et aussi dans la façon dont ceux-ci, ces sujets, ces terrains se retrouvent affectés par l'actualité, et c'était particulièrement vrai pour ce qui concerne Martha, qui travaille sur les musiciens Touareg du Mali notamment. C'était vrai également pour moi qui ai travaillé sur les musées en Afrique de l'Ouest et qui m'intéresse maintenant au marché de l'art africain en Afrique de l'Ouest toujours. Toujours est-il que la destruction de plusieurs mausolées classés au patrimoine mondial dans le Nord Mali et la menace qui a pesé sur les manuscrits de Tombouctou a focalisé l'attention internationale fin 2012, début 2013. Viser ce patrimoine ne relevait pas seulement du vandalisme, en fait. Ce fut aussi, pour Acme et pour ses alliés, un moyen de communiquer particulièrement efficace, un outil de propagande. David Berliner a rappelé que l'UNESCO pouvait être perçu par les populations locales comme l'incarnation d'un certain impérialisme occidental. Il rappelait ainsi deux points à notre avis essentiels. D'une part, l'importance des incompréhensions qui existent autour de notions parfois abstraites de patrimoine et d'authenticité, qui démontrent, je cite Berliner, la difficile appropriation locale des chartes internationales de préservation. Et un deuxième point qu'il soulignait, c'est le fait que certains gouvernements cherchent, quant à eux, à utiliser le label patrimonial à des fins nationalistes et que le classement d'un site par l'UNESCO peut déboucher sur de graves tensions internationales et des passions identitaires. Alors les résistances aux patrimonialisations, comme les réappropriations politiques des biens culturels, produisent des frictions ordinaires, mais qui sont susceptibles de se retrouver exacerbées dans le contexte de conflits armés, de guerres civiles, de crises politiques. Et par ailleurs, il ne faudrait pas que les atteintes au patrimoine mondial occultent d'autres faits, moins médiatisés, mais tout aussi révélateurs des enjeux sociaux et politiques locaux. Hein, pour prendre un exemple récent, il y a deux semaines encore, à Tripoli, des groupes armés ont saccagé la mosquée Karamanli, puis, quelques jours plus tard, la madrasa historique Othman Pacha. Bon, cet exemple pour dire que la mise en relief de certains biens patrimoniaux par les médias ne doit pas, au contraire, doit nous inviter à penser à contrer en quelque sorte la hiérarchie des valeurs qui est celle du point de vue occidental, on va dire. L'objectif de cette journée d'étude n'est bien sûr pas de dresser une sorte de liste de biens culturels ou d'objets patrimoniaux en danger, de dresser une espèce d'inventaire sombre ou tragique du patrimoine matériel, immatériel sur le continent africain. Le regard porté par les chercheurs en sciences sociales vise au contraire, bien plutôt, la compréhension fine de cas complexes, révélateurs de contextes locaux, de stratégies politiques qui vont participer à la requalification d'objets patrimoniaux variés comme cible. L'analogie entre protection des populations et sauvegarde du patrimoine mérite, quant à elle, d'être interrogée de façon critique. Et dans l'appel à communication de cette journée d'études, nous avions insisté sur les problèmes éthiques qu'elle pouvait soulever. Il n'empêche qu'elle soulève aussi la question du post-conflit. En mai dernier, Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, a déclaré, à l'occasion du 60e anniversaire de la Convention de La Haye sur la protection du patrimoine culturel, je la cite, « La protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel, est inséparable de la protection des vies humaines. Il doit être protégé aujourd'hui comme condition de la réconciliation de demain. » Alors, cette idée selon laquelle le patrimoine posséderait une vertu conciliatrice ou réparatrice ne va pas de soi, et c'est l'autre constat dont on partait au moment de la rédaction de l'appel à communication. On sait que la recherche d'un consensus patrimonial est très généralement illusoire. Et dans les entreprises de reconstruction d'un passé commun, où l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie peuvent se retrouver mobilisées, de la même manière que dans les mises en scène nationales de la tradition, de la culture, les risques d'instrumentalisation des victimes ou les risques de réécriture des conflits sont évidemment importants. Et ces manifestations de la mémoire peuvent, à divers degrés, redoubler la violence physique par une violence symbolique. C'est Nathan, notamment, qui a été intéressé par ces questions, puisqu'il travaille, il mène des recherches sur les archives audiovisuelles du génocide rwandais. L'objectif de cette journée d'étude est donc de questionner les usages locaux du patrimoine et de la rhétorique de la sauvegarde culturelle, non seulement en contexte de violence, mais aussi en situation de post-conflit. Au-delà de la variété de ces contextes et de ces conflits, en ne succombant ni à la tentation d'une vision misérabiliste, catastrophiste d'un continent qui est bien trop souvent caricaturé, ni à la tentation d'une vision, au contraire, enchantée des vertus du patrimoine. Le but est de rendre compte des appropriations parfois ambivalentes de la notion de patrimoine et des violences faites aux patrimonialisations. Alors, de nombreuses communications ont été proposées. On a dû faire un choix parfois difficile. Et on est particulièrement heureux de la variété des disciplines qui sont représentées aujourd'hui. Nous remercions donc l'ensemble des intervenants pour leur intérêt, pour leur présence. Certains d'entre eux sont venus de loin et nous les accueillons avec plaisir. Nous sommes aussi très reconnaissants à Christina Panella et à Hélène Joubert d'avoir accepté de présider les deux sessions de cette journée, une journée qui s'annonce particulièrement riche. Et enfin, nous remercions le LABEX Création, Art et Patrimoine pour son soutien financier et le département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly pour son soutien matériel et son intérêt pour les problématiques de la journée. Et merci au public d'être venu ce matin. La première session donc va être présidée par Christiana Panella. On va inviter les deux intervenants de la première moitié de la session jusqu'à la pause de se joindre à vous à la table. Et effectivement, le premier intervenant, on invite les collègues du premier intervenant à se joindre à lui pour la communication.
Donc, bonjour à tous, je suis Christiana Panella, chercheure en anthropologie sociale au Musée Royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Et j'ai le plaisir de présenter cette première session de cette journée d'études et je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à présider cette première séance. Donc, comme vous savez, cette première session comporte quatre orateurs. Les deux premiers sont Manuel Gutiérrez, maître de conférence en préhistoire et archéologie à l'Université de Paris 1 à Sorbonne, et Anne Ivar, ingénieure de recherche au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Après, il y aura une pause de 15 minutes. Et la deuxième partie de la session va accueillir Vincent Michel et Sofiane Boudiba. Donc, je laisse la parole à Manuel Gutiérrez, qui nous présente une communication titrée « Patrimoine et pays en guerre, l'exemple de l'Angola ».
Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes quatre à avoir préparé cette communication. Donc, sans le vouloir, on a respecté la parité. Donc, deux Angolais, deux Français, deux hommes et des femmes. Et donc, je représente les quatre personnes. Il y a deux collègues qui sont dans la salle qui pourront répondre à vos questions par la suite. Et Claudine Carlin n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Il a eu un empêchement, donc elle a dû partir à Lyon. Donc, je serai pour l'instant seul. Donc notre sujet concerne l'Angola, c'est un pays assez grand qui comporte donc, je ne sais pas si les flèches fonctionnent, oui. Donc du point de vue géographique, trois grandes zones, une côtière que vous voyez ici, une autre au centre, et puis un grand plateau à l'intérieur du pays, et pour une surface d'un peu plus d'un million de 100 000 kilomètres, et pour une population estimée à 20 millions d'habitants. Donc les groupes culturels du pays sont au nord, les grands groupes Congo, suivis un peu plus au sud par les Kimbundu, et puis un peu plus au sud encore, les Ovimbundu. À l'est, on retrouve les groupes Lunda Shokwe. Et au sud, des petits groupes Sand, qui avant, on appelait Bushman. Donc, c'est un pays particulièrement riche, aussi bien du point de vue du patrimoine ethnologique que du point de vue de l'archéologie. Et vous avez ici deux images. Une du Musée national d'anthropologie de Luanda, AO. C'est un musée qui compte à peu près 6000 objets ethnologiques, dont 400 à peu près sont une exposition permanente, donc à la capitale. ici une photo du musée de Dundo qui se trouve à l'est du pays, qui a une collection ethnologique un peu plus grande, puisqu'il a à peu près 9000 objets, dont 900 sont présentés en permanence. Donc la richesse ethnologique se traduit par ce type d'objets. Vous avez là un masque chokwe pour qui représente la femme au l'idéal féminin. À côté, vous avez un siège également chokwe qui est le siège lié au pouvoir avec des objets qui représentent également une partie de ce pouvoir chokwe. Ici, vous avez la représentation de Jiminda Ilunga, qui est la représentation du grand chef avec les attributs du chef, notamment les casques en forme de masques, également les fusils, et puis les jeunes qui l'accompagnent pour la chasse. Donc c'est un patrimoine important. Du point de vue de la création artistique ancienne, les pays riches, un site d'art rupestre également. Vous avez ici le site d'Opeleva au sud du pays, qui compte une cinquantaine de figures peintes, dans lesquelles on trouve des figures monochromes, un blanc, un rouge, ou des figures en bichromie, voire en polychromie, de ce type-là. Un autre site à proximité, donc à une centaine de kilomètres du précédent, c'est l'abri de Magahama, qui compte un peu plus de 150 figures, et dont l'une des spécificités du site est que la partie inférieure était peinte en blanc, voyez, et la partie supérieure et les plafonds sont peints en noir. Le pays connaît aussi un très grand nombre d'édifices funéraires. Vous avez ici un exemple, la nécropole de Kapanda, qui fut envahie par un barrage construit à proximité. Donc cette nécropole, on a pu la fouiller pendant la guerre en 1992. Le matériel funéraire est très important également du point de vue du matériel osseux. Du point de vue de la préhistoire, les recherches archéologiques ont commencé très tôt, autour des années 40, avec la création d'un musée à l'est du pays, donc à Dundo, où un géologue belge, Jean-Marc, a commencé les fouilles archéologiques, la récolte du matériel lithique, et il a invité souvent des chercheurs étrangers à venir travailler avec lui. En particulier, Desmond Clark a publié une série d'ouvrages sur la préhistoire de l'Est et de l'ensemble du pays. Donc, il s'agit d'une ancienne colonie portugaise. Donc, le pays a connu une longue période de guerre au moment de l'indépendance. Et juste après l'indépendance, une guerre civile qui a été aussi très longue et très meurtrière, puisque en tout, ça fait plus de 40 années de guerre. Donc cette guerre a touché l'ensemble du pays. Un des aspects les plus terribles, c'est que les mines antipersonnelles ont été très nombreuses. C'était un des pays où les mines antipersonnelles étaient un plus grand nombre. On disait à l'époque qu'il y avait une mine par habitant en Angola. Et évidemment, ce sont des armes de destruction individuelle qui causent énormément de dégâts, aussi bien sur les individus que sur la mentalité des personnes, puisque ce sont des objets qui ne tuent pas directement, ils abîment les corps humains. Donc on voit les personnes se déplacer avec un membre à moins. Évidemment, les chemins et toute une partie du territoire est concernée par ce type d'horreur. Donc on ne peut pas se déplacer tranquillement. Il faut souvent utiliser les sentiers qui sont déjà sécurisés, ce qui empêche d'une part la mobilité, mais de l'autre côté également tout type de recherches sur le terrain. Donc cette situation de guerre permanente se reproduit également sur tous les comportements de la population. Même les jeunes pasteurs, ces jeunes que vous voyez là, il doit avoir 15 ans à peu près, mais il est déjà habitué au maniement des armes. Donc il protège son troupeau avec une kalachnikov et quand il s'ennuie, il tire tout simplement et, pour s'amuser. Donc on a eu souvent des jeunes comme ça qui jouaient avec des armes et les balles nous passaient juste à quelques centimètres au-dessus de la tête. Donc cette notion de détruire et de vivre au jour le jour n'empêche pas tout de même la vie. Et donc les enfants construisent des jouets pour s'amuser de temps en temps. Donc dans ce type de situation, on vit effectivement avec la peur, avec la crainte du lendemain. Et tout projet, que ce soit de vie, soit scientifique, soit professionnel, ne peut pas se faire sur les moyens termes et encore moins sur les longs termes. Donc on ne peut pas se projeter vers l'avenir. Donc c'est dans ce contexte que nous avons commencé à travailler avec l'équipe du Musée national d'archéologie de Benguela dans la recherche archéologique au sud du pays. Donc l'une des premières mesures, c'est d'inviter en France des collègues du musée de Benguela pour venir travailler dans les sites archéologiques de l'Université de Paris, en particulier à Pincevent et à Étiole, où on utilise les modèles de fouilles développés par les rois gourands que vous voyez ici à haut, à gauche. Et donc pour leur montrer qu'est-ce que c'était que l'école française d'archéologie, comment on fouille, quelles sont les finalités de la recherche, et essayer de consolider un premier noyau sur place. Donc évidemment, c'est très difficile de travailler dans une région où tout tourne autour de la guerre. Vous voyez ici, à la sortie de Benguela, l'état des casernes. La guerre est pressante à tout moment. Une partie de ces casernes a été détruite. Et puis les vestiges des armes est toujours là. Donc l'axe du travail sur place, c'était le Musée national d'archéologie de Benguela qui vivait avec un minimum. Et évidemment, un temps de guerre, l'archéologie n'est pas une priorité. Et la recherche du passé non plus. Et la protection du patrimoine encore moins. Donc voici la façade du musée et où une équipe avait été créée juste après l'indépendance et qui essayait de faire de la recherche avec les moyens qu'ils avaient sur place. Vous voyez que les moyens de transport étaient un peu rudimentaires, les matériels de fouilles également, mais la très grande chance de ce musée, c'était d'avoir eu un directeur qui croyait à l'archéologie. Il avait été formé lui-même à l'université de Lubango. Donc il animait une équipe dont l'objectif, c'était la recherche archéologique dans une situation complexe. Donc le musée lui-même avait très peu de crédit, donc à un moment les toits s'est effondré, et puis évidemment il n'y avait pas moyen de les réparer, donc les toits étaient par terre, et on a dû travailler dans les autres salles de ces musées, qui n'était pas réjouissante non plus. Vous voyez ici l'état de ce qu'on pouvait appeler les débuts ou la fin des bibliothèques, au choix. Mais également tous les matériels pour écrire, noter, etc. manquaient terriblement. Mais ce qui est important, c'est qu'en des situations de ce type-là, l'imaginaire prend la place du confort financier. Et donc les collègues du musée avaient... Et ils ont toujours beaucoup d'imagination. Vous voyez ici une table en béton transformée en présentoir où les objets archéologiques sont exposés au public et également des constructions sommaires comme ici ce type de maisons anciennes mais également des sites fortifiés fabriqués avec des petites pierres qu'on trouvait à proximité du musée, mais qui permettaient de maintenir les musées en vie et attirer un public qui était toujours intéressé. Donc de l'autre côté, nous commencions à consolider un groupe avec des chercheurs français et angolais. Et on invitait donc des chercheurs confirmés de France venir sur le terrain. Ici, et à haut, à gauche, vous savez, Jean Chevalier, qui était directeur de recherche au CNRS et qui est décédé il y a à peine un an et demi, qui est en train d'appliquer aux collègues angolais la manière de lire en biface, qui sont des objets lithiques anciens. Et ici, vous avez un étudiant de l'Université Paris 1 qui fait de l'expérimentation lithique. Et donc, il montre à ses collègues comment on fabrique des objets. Donc, de l'autre côté, et à partir de la formation qu'un certain nombre des jeunes du musée avaient eu sur place, on commence les fouilles archéologiques et à partir des données étratigraphiques. C'est-à-dire, on reproduit sur place ce qu'on a fait en Europe, c'est-à-dire des fouilles méthodiques dans lesquelles la recherche d'une stratigraphie est fondamentale pour pouvoir comprendre les occupations dans les temps. De l'autre côté, on change les méthodes qui étaient appliquées sur place, qui étaient les ramassages intensifs des surfaces, et nous, on passe à la méthode stratigraphique des fouilles fines avec des instruments, des petites truelles, des pinceaux, des instruments des dentistes. Malgré les conflits, malgré une réalité complexe, on essaye de consolider cette équipe qui aura par la suite la responsabilité de l'ensemble. Donc, ils apprennent sur le terrain aussi bien à utiliser les instruments de mesure, à savoir les lire, à étudier la profondeur, à regarder les matériels lithiques, à utiliser des méthodes de datation complexes et se rendre compte qu'ils sont un patrimoine riche parce qu'il y a une partie de ces sites sont datés de 2 millions d'années. Donc ici, on est dans un site qui s'appelle Dungo 4, dont la fin de la stratigraphie s'arrête ici. C'est la roche et tout le reste sont des occupations très anciennes. Mais dans ce site, on a seulement des pierres, donc du matériel lithique. Donc on cherche l'os, parce que bon... derrière ces objets en pierre, quelqu'un a dû les fabriquer, donc on les cherche. Donc il y avait des hypothèses très pessimistes sur le sud de l'équateur en Afrique, comme quoi l'os ne pouvait pas se conserver. Nous sommes passés au-delà en disant on va chercher d'abord, et comme on a cherché plutôt bien, on a trouvé. Donc on a ici un squelette de baleine, qui est important dans la mesure où c'est un animal qui a été charognier. Donc on a du matériel lithique à l'intérieur, donc des choppers, des grains éclats. Et vous voyez que les squelettes sont dégagés intégralement. Il y a des chercheurs français qui sont venus pour reconnaître cet animal, parce qu'au départ c'était un peu difficile de savoir le type de bête qu'on avait fouillé. Il s'agissait d'une baleine donc, qui est venue s'échouer ici et qui a été consommée par les hommes du paléolithique par la suite. Donc l'inventaire s'enrichit, on a deux squelettes des bêtes échouées, on a une pratique de charognage, on a des datations faites sur des coquilles d'huîtres, mais également sur les matériels lithiques qui nous poussent très loin dans le temps, puisqu'on est dans une période de 2 millions d'années, voire un tout petit peu plus. Donc c'est un patrimoine important et qu'on a mis en évidence, mais évidemment on est dans une situation de conflit où cette notion de construire l'avenir est très difficile de mettre en place. Un exemple, par exemple, ici les musées avaient créé un lieu protégé, donc ces sites ont été déclarés patrimoine historique, mais bon, la Kalachnikov étant l'instrument qu'on utilise un peu partout, on a détruit ceci à coups de balles. Donc vous voyez ici les traces des balles, tout simplement parce qu'on imagine qu'on ne peut pas travailler sur une notion ancienne du patrimoine, on ne peut pas valoriser ce passé, il faut détruire. Donc les destructions sont nombreuses. Ici, à haut, à gauche, on a un tube qui ne sert absolument à rien, c'est un simple tube, mais qui pour nous, archéologues, nous sert pour placer un instrument de mesure. Donc on place ici l'instrument chaque matin quand on arrive, parce qu'évidemment, dans des situations de ce type-là, on ne peut pas laisser du matériel sur place, on ne peut pas dormir sur place non plus, il faut rentrer chaque soir parce qu'il y a toujours un danger quelque part. Mais voilà, l'envie de détruire, et c'est l'attraction gratuite. On n'a qu'à cela tout simplement parce que la mentalité, les mentalités, la manière de vivre implique qu'il faut détruire. Mais évidemment, nous sommes un tout petit peu plus têtus, j'allais dire, et on continue. Donc, on a créé un chantier école où non seulement les membres du musée viennent se former à l'archéologie, mais les étudiants de l'université viennent également. Et on ne s'est pas contenté des étudiants universitaires de la région. On a invité des collègues des pays voisins. Donc, vous avez ici deux collègues du Congo, de l'université de Brazzaville. Au Congo, il y avait aussi une situation un peu conflictuelle, puisque trois périodes successives de guerre avaient empêché toute recherche de terrain. Donc nous, on les a invités en Angola, ils sont venus chez nous, enfin, venaient en Angola, et en Angola, on peut travailler. Bon, il y avait la guerre aussi, mais on pouvait travailler. Donc on apprend sur le terrain l'importance du patrimoine archéologique, la manière de les laver, de les noter et montrer ce qu'ils représentent pour l'avenir. Donc la constitution d'une équipe solide dans laquelle la partie française intervient, mais les autres composantes régionales, comme les collègues congolais, peuvent participer. Donc à cette époque-là, à Benguela, s'est constitué le premier centre universitaire. Il s'appelait Centre universitaire de Benguela, au Koub, sur place. Donc les étudiants participent, viennent sur le terrain. Au départ, ils viennent seulement une journée, mais progressivement, on va les intégrer d'une manière un peu plus suivie. Donc ils vont se mettre à fouiller également. Et les stages de fouille sera obligatoire dans l'enseignement universitaire, comme on fait ici en France, à l'Université de Paris, des Parisiens. Les étudiants sont obligés de faire un stage de fouille. Nous, donc, on a réussi à convaincre nos collègues universitaires pour que les étudiants puissent faire ces stages, qu'ils les font sur les sites. Donc, du coup, les collègues du musée Benguela deviennent l'équipe qui encadre les jeunes de l'université. Donc, ils ont une responsabilité supplémentaire. Il ne s'agit pas seulement de fouiller, mais il s'agit également de former. Donc, cette formation est pratique, apprendre à fouiller, apprendre à reconnaître les matériels, mais on donne également des cours sur le terrain. Et vous voyez ici, les collègues ils sont en train d'appliquer comment on fait des fiches d'enregistrement. Et là, un non-angolais est en train de donner un cours sur le terrain aussi. Donc c'est très pratique parce que ça consolide une équipe, ça soude les gens et on... Ça ira, j'aurais fini un tout petit peu avant. Donc ça soude une équipe, le terrain permet de faire face aux mêmes contraintes, la chaleur est la même pour tout le monde, la fatigue est la même, l'envie de connaître fait naître des potentialités, donc on peut choisir des étudiants qui sont doués pour l'archéologie et envisager par la suite des formations ici. Donc on a eu trois boursiers angolais en France, dont deux ont déjà soutenu leur thèse de doctorat, et la troisième va soutenir très bientôt. Donc l'effet de pouvoir créer une équipe mixte et internationale implique qu'on aura par la suite des responsabilités partagées, et ces responsabilités passent également pour... faire reconnaître ce patrimoine archéologique qui peut être parfois dispersé. On a ici, à une trentaine de kilomètres au sud de Benguela, un site à l'air libre. Donc ceci, c'est un atelier lithique énorme, unique, enfin, pour les peu que je connais d'Afrique, unique en Afrique, sur lequel il y a des milliers d'objets lithiques en surface. Du sommet que vous voyez ici, jusqu'à la base, il y a des milliers d'objets. Donc on amène les étudiants sur ces chantiers et leur montre que ceci fait partie du patrimoine et qu'on ne peut pas partir à la fin de la visite avec une petite pierre cachée dans la poche parce que ça fait partie du patrimoine angolais, donc il doit rester sur place, il doit être protégé, même si c'est à l'air libre, ça fait partie de leur passé. Donc cette manière de prendre conscience qu'un patrimoine existe, même pendant des périodes de conflits intenses, passe également par la formation. Donc les musées, avec les faibles moyens dont ils disposaient à l'époque, aujourd'hui évidemment les choses s'améliorent progressivement, reçoivent des groupes d'étudiants qui viennent voir ce qu'on peut leur proposer. Donc il y a d'une part les objets en pierre qui sont toujours impressionnants parce que les professeurs et les étudiants se demandent comment vous faites pour différencier une pierre naturelle d'une pierre travaillée par l'homme. Donc la personne qui fait la visite doit montrer qu'on a des systèmes de reconnaissance. Mais également, on reproduit sur place des sites de peintures rupestres pour leur montrer que la création artistique est également ancienne et qu'il faut également la protéger. Donc on n'est pas suffisamment fatigué après une journée de travail sur le terrain, on continue les soirs et donc on fait des expositions dans le musée. Ici à haut de l'échelle, vous voyez ma collègue Claudine qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé de ne jamais montrer cette photo à son mari parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer ce qu'elle faisait en Angola quand elle partait en mission avec nous. Donc on prend des risques mesurés et puis on fait des expositions dans lesquelles on montre ce qu'on trouve sur le terrain de sorte que la population qui ne peut pas venir tous les jours visiter les chantiers de fouilles puisse se rendre compte de ces patrimoines qui autrement seraient tout à fait inconnus. Ici, c'est la reconstitution de la première baleine avec des cartes, des photos et des tas de choses qu'on a fait sur le terrain et qui vont nous permettre par la suite d'accueillir les publics de la ville, les universitaires, etc. et leur montrer que ce qu'on fait a de l'importance. Voilà, à titre de conclusion, donc la vie existe en dehors ou avec les conflits armés. Et il faut les vivre, il faut les vivre sur place pour se rendre compte de toutes les répercussions qui ont ces conflits sur les personnes, sur les vivants, sur les gens qui continuent à vivre malgré tout. Et donc ces notions de destruction restent très longtemps ancrées dans les consciences, même après la fin des conflits, mais qu'on peut tout de même travailler en équipe, et de notre point de vue, parce qu'on est conscient que la constitution d'une équipe est difficile, mais c'est seulement nous pensant qu'en créant ce type d'équipe, où la recherche est fondamentale, où la confiance règne entre nous, qu'on peut aller au-delà. Et comme vous pouvez le voir, on peut aller jusqu'à 2 millions d'années pour montrer que le patrimoine est important et que ce sont les Angolais qui auront en charge la protection de ce patrimoine, évidemment avec notre collaboration. Voilà, les remerciements donc à un peu à nous-mêmes, hein, donc à cette équipe de franco-angolaise, au service de coopération de l'ambassade de France d'Angola qui nous a soutenus, en particulier financièrement, pour mener des recherches pendant une vingtaine d'années, au ministère de la Culture de l'Angola qui nous aide beaucoup également et qui maintenant a pris conscience de l'importance du travail réalisé pendant toutes ces années. Sans être chauviniste, à l'Université Parisien, qui me laisse partir assez souvent en Afrique, et à l'UMR 7041. Et puis à toute une série d'amis, de collègues et autres qui, sur place, nous soutiennent. Et puis à vous, pour nous avoir invités à participer à cette journée d'études. Merci.
Encore merci Manuel Gutiérrez. Donc, je rappelle que ce papier donc a été conçu en collaboration avec Claudine Carla du SNRS, Ziva Domingos du ministère de la Culture en Angola et Maria Elena Beniamin, doctorante à Paris 1 et membre du musée d'archéologie de Benguela. Donc maintenant on a, je crois, 10 minutes, un quart d'heure pour les questions. Pour un débat concernant la présentation de Manuel Gutiérrez, et puis on passera au deuxième intervenant. Oui, je crois que ça va aller. Pas con son micro.
J'ai deux micros. Vous entendez ? Merci pour la présentation, mais c'était un petit peu pessimiste. Moi, j'ai une question pratique concernant le musée dont vous avez parlé. Quel type de public qui fréquente ce musée? Est-ce que ce sont des Angolais ou bien on a l'impression que ce sont uniquement des gens qui viennent des chercheurs qui viennent de l'étranger? Et l'autre question est vraiment pratique. Comment fait le musée pour assurer son autosuffisance? Parce que vous avez montré l'image du toit, etc. Donc comment est-ce qu'il fait pour se maintenir en vie? Voilà.
Oui. D'accord. Et je me trouve pas personnellement pessimiste. Je me trouve plutôt optimiste pour l'avenir. Et déjà, on était plein d'optimisme. Autrement, on n'aurait pas commencé. Ensuite, bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas du tourisme en Angola. Et, donc, il y a la population de la ville qui viennent au musée, les étudiants, les professeurs, et les publics en général. Donc les musées vivent avec beaucoup du monde autour. Ce qui concerne la vie du musée, Ziva, qui est du ministère de la Culture, va répondre.
Ok, justement par rapport au fonctionnement du musée, là peut-être on était dans un contexte qui part de 90... jusqu'en 2000, c'était la vraie période des guerres. Mais après 2000, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est vraiment différente, avec une prise de conscience assez forte du côté du gouvernement pour des investissements assez importants dans les secteurs sociaux. Donc la culture fait partie justement de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, le Musée national d'archéologie, c'est un musée qui est financé à 100% par le gouvernement. Donc, ils ont un budget de fonctionnement avec un personnel d'à peu près 50 travailleurs, si je ne me trompe pas, peut-être Hélène va réajuster. Donc, vous voyez, donc, il y a quand même 50 personnes qui y travaillent et il y a un budget annuel de fonctionnement, d'investissement, que le gouvernement met à leur disposition. Et évidemment, il y a d'autres projets qui ne sont pas directement financés par le gouvernement, mais qui bénéficient justement de l'appui de l'ambassade de France et d'autres partenaires sur tous les chantiers archéologiques qui se dessinent un peu au niveau de l'Angola, que le musée d'archéologie a la responsabilité un peu de coordonner. Donc, les petits moyens sont là. Et le musée aujourd'hui peut améliorer beaucoup de choses avec le peu de moyens que le gouvernement met à sa disposition. Donc le grand problème continue à être, il faut des équipes assez fortes, formées, beaucoup plus formées, pour que les gens se mettent vraiment au travail et améliorer peut-être cette image qui a été présentée par Manuel. Voilà. Ce que je peux dire, peut-être pour le public, Hélène a un peu rajouter quelque chose.
Merci, bonjour à tous. Hamman, architecte, je dois vraiment féliciter ce travail qui est pour moi exemplaire. Ça pourrait être intéressant de faire circuler dans toute l'Afrique. On a des pays africains où il y a une richesse, mais malheureusement, il n'y a pas ce type de travail qui a été fait pour montrer au public l'importance de ce patrimoine, peut-être immatériel aussi. Et d'autres questions que je voulais savoir, est-ce que les jeunes de l'école primaire ont accès à ces musées? Merci.
Oui, les étudiants, vous avez vu, il y a des groupes d'étudiants qui viennent avec leurs professeurs. Donc ils sont souvent en visite guidée avec leurs professeurs, les membres du musée. Donc c'est ouvert et c'est une manière de les préparer pour l'avenir. Donc on peut pas les former tout de suite à l'archéologie parce qu'ils sont un peu petits, mais par la suite, oui, on souhaite vivement que l'intérêt pour la discipline touche les niveaux universitaires de plus en plus, de sorte de pouvoir former des archéologues professionnels. Mais on s'intéresse aussi à la jeunesse, bien entendu.
Merci. Moi, J'étais surtout intéressé par la conclusion. Lorsque vous avez dit que l'avenir de la recherche appartient aux Angolais. C'est une question que je voulais poser alors déjà à vous, mais aussi à Ziva, pour dire aujourd'hui, pour savoir quel était l'état de la formation dans cette discipline qu'est l'archéologie en Angola, pour poursuivre la recherche. Je pense que c'est une question qui est à la fois à vous, parce que tout au long de cette période très difficile pendant laquelle vous avez travaillé et mené ce travail, vous n'avez eu de cesse que de vous assurer que les Angolais s'appropriaient ces outils de recherche. C'est très louable. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je pose la question. Et aujourd'hui, elle s'adresse aussi à Ziva. Quel est l'état de la recherche? Parce que est-ce que on a déjà une école d'archéologie ou une formation en archéologie à l'université sur place en Angola? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des coopérations qui continuent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées? Merci.
Du point de vue universitaire, il y a une formation théorique à l'université de Benguela, à l'université Katéva Labouila. Et ce sont ces étudiants qui font la formation théorique d'abord, qui viennent sur le terrain faire un stage de fouilles. Mais pour l'instant, ce n'est pas un institut d'archéologie ou une formation qui amène jusqu'à un diplôme d'archéologie. C'est dans le cadre de la formation en histoire. Évidemment, notre souhait, c'est d'avoir une formation en archéologie, au moins jusqu'au niveau master, et qu'ensuite nous puissions prendre la formation doctorale à Paris, par exemple. Mais pour l'instant, on est au niveau de l'enseignement théorique à l'université, et seulement à Benguela. On a discuté avec l'ENA et les rectorats cette année pour élargir les chantiers écoles à l'ensemble du pays. Donc l'université prendra en charge les déplacements de 3 ou 4 personnes de chaque faculté de tout le pays. Je leur ai dit pas plus de 40, parce que plus de 40 personnes, c'est ingérable. Et donc ils vont trouver des logements, etc. Donc comme ça, on va former des petits noyaux sur l'ensemble du pays, qui à leur tour vont former leurs étudiants. Donc on a des projets, les universités sont conscientes de l'importance de l'archéologie. Mais mon rôle, si vous voulez, s'arrête là, et à la collaboration scientifique entre institutions. Tout ce qui est de la création d'informations sur place, sur les ministères concernés qui peuvent le faire. Si on me demande mon avis, je le donne, mais si on ne me le demande pas, je peux leur dire faites ci, faites cela. Oui.
Je vais compléter. Donc, si je fais un petit tour dans ma tête, aujourd'hui, si on parle d'archéologue formé avec un niveau master, doctorat en Angola, ils sont autour des 5, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez un noyau des 5 professionnels, techniciens formés en archéologie. En France, évidemment. Et puis, il y a d'autres qui se forment au Portugal actuellement. Donc voilà la réalité aujourd'hui du terrain. Quand on parle de l'archéologie en termes de personnes formées, évidemment, il y a le staff du musée d'archéologie qui essaie d'apporter un soutien à tout le travail archéologique qui est fait sur place. Donc avec 5 individus, on ne peut même pas imaginer gérer l'archéologie dans un pays aussi riche, archéologiquement parlant. Donc c'est un vrai défi, la formation. Et comme disait Lazare, quelle est aujourd'hui les perspectives qui se dégagent? Évidemment, il y a ces initiatives avec Paris 1, avec les chantiers écoles. Maintenant, il faut passer à une autre vitesse, essayer de regarder sur place avec les universités qu'est-ce qui peut être fait dans ces domaines-là. Alors là, d'ailleurs, ce matin, j'ai discuté avec Manuel. Et avec des collègues portugais, on est en train de réfléchir, pourquoi pas essayer de monter un master à la faculté de sciences sociales, là où je donne mes cours évidemment, et essayer d'avoir un master en archéologie et patrimoine évidemment, pour essayer de récupérer les étudiants qui sortent en licence d'histoire et d'anthropologie Et pourquoi pas aller même au niveau de la faculté des sciences, récupérer ceux qui font de la géologie et autres, pour essayer de les amener vers un master assez spécialisé dans ce domaine du patrimoine et d'archéologie. Voilà un peu la vision aujourd'hui. Et je pense que dès que je rentre en Angola, c'est vraiment le projet que je souhaite amener à l'université aujourd'hui pour essayer, au niveau de Luanda, d'avoir ce master-là. Et pourquoi pas après, on a des universités régionales aujourd'hui, dont parlait Manuel Katiavala, qui couvre un peu la partie sud. Donc voilà, on peut greffer dans ces noyaux régionaux des universités des masters comme ça ou des cours assez spécialisés dans ces domaines assez précis qui a besoin d'un personnel formé et spécialisé. Voilà ce que je voulais dire.
Manuel, j'ai une toute dernière question, s'il n'y a personne d'autre qui veut intervenir. J'étais évidemment, en tant qu'anthropologue, j'étais très intéressée à votre propos d'ouverture sur la conception du don auprès des gens sur place pendant la guerre. Donc, j'étais très intéressée à cette idée de sentir sur soi physiquement la contingence et la précarité de sa propre vie. Et je me demandais comment, en fait, d'après les conversations, les entretiens que vous avez eus, comment les gens essayent de concilier quelque part ce décalage entre la vie qu'ils mènent et cette idée de pérennisation d'un bien quelque part commun que l'archéologie représente. Est-ce que vous avez eu des échanges à ce propos? Qu'est-ce que les populations locales pensent par rapport effectivement à la précarité de leur vie et à la pérennisation, à l'idée de je ne dis pas d'intemporel, mais quand même de continuité que l'archéologie propose à travers les fouilles.
Il y a les deux. D'une part, bon, nous ne sommes pas dans un cercle fermé entre archéologues et conditions. Parce qu'entre nous, l'équipe du musée et nous autres, c'était une évidence. On est dans quelque chose qui est notre métier. Donc, de l'autre côté, la manière dont les publics externes nous voient, il n'y a pas un seul regard, il y a plusieurs. Il y a évidemment des gens qui considèrent qu'on est complètement fou d'aller chercher des pierres dans les montagnes, de respirer la poussière pendant toute la journée, de rentrer complètement rouge, plein de brûlures sur le corps, pour des petites pierres. Ces gens-là, ils ont quelque chose d'étrange dans la tête, donc il vaut mieux, etc. D'autres considèrent que c'est du gaspillage. Je me suis trouvé dans des avions dans lesquels des gens d'handicap international me disaient comment est-ce possible que la France gaspille son argent tandis qu'il y a tellement d'handicapés. Et ces mêmes gens, je les ai vus quelques années plus tard, ils m'ont dit on a distribué de la farine et de l'huile pendant des années et ça n'a rien changé tandis que vous avez maintenant une équipe, vous avez des gens qui sont en formation en France, etc. Vous avez fait quelque chose tandis que nous, on va partir d'ici, on va aller donner de la farine et de l'huile dans d'autres régions d'Afrique. Donc ce sont des conceptions très différentes, vous voyez, je pense pas qu'ils soient inutile de distribuer l'alimentation, au contraire, c'est indispensable. Mais l'être humain ne vit pas que de la farine et de l'huile. On a un peu plus. Et c'est plus, il faut les penser dans les périodes difficiles. Et je me souviens les premières visites de nos collègues angolais en France. Je leur disais, maintenant, vous pensez à rien, vous allez travailler sur les chantiers, ne vous inquiétez de rien. L'alimentation, tous les transports, tout est pris en charge. Et faites de la recherche archéologique, vous verrez quand je retourne avec vous, on regardera les choses d'une autre manière. Donc c'est ça l'affaire, créer un noyau, créer une équipe, fonctionner, etc. Et ensuite, donner une image externe, c'est pour cela qu'on fait cette exposition, on ouvre les chantiers pour le public, etc. Et cette image, il faut la créer. Elle ne vient pas seule. Et si on n'a pas un rôle moteur dans la défense, dans la protection du patrimoine, ça ne vient pas seul, ce n'est pas inné. Et les gens peuvent penser que parce qu'ils sont des pierres qui sont à la surface, on peut les prendre, les amener. Oui. Donc il y a plusieurs regards, et pas un qui est très positif ou un autre qui est très négatif. Oui, il y a des nuances.
En tout cas, cette question effectivement de la mobilité spatiale pendant la guerre, je trouve que c'est très intéressant. C'est bon, enfin, au moins pour les anthropologues, parce que comme vous savez, ils sont très abstraits. Alors, merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Duncan Nivar, qui va nous présenter une communication dont le titre est « Stratégie autour du patrimoine en Namibie, la rupture dans la continuité ».
Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour avoir retenu cette proposition de présentation. Donc, la Namibie, il s'agit en fait d'une ancienne colonie allemande qui est ensuite devenue une province illégalement annexée par l'Afrique du Sud, et ce pendant plus de 60 ans. Ce pays a finalement récemment acquis son indépendance, en 1990, et il peine encore à se définir sur le plan du patrimoine. Je vous ai mis une petite, les grandes étapes chronologiques pour garder un petit peu ces éléments historiques en tête. Donc, au lendemain d'une indépendance difficilement acquise et après des années d'annexion, de tutelle et de guerre, la Namibie est confrontée à des problèmes politiques et économiques majeurs. La construction de cette jeune nation passe alors par une volonté marquée d'éviter l'éclatement, de canaliser les éventuelles réclamations et velléités identitaires et ethniques, et ce, par l'affirmation d'une nation unie avec un exécutif centralisé. Donc, je vous le disais, en fait, la Namibie semble avoir investi tardivement le champ du patrimoine, puisqu'il faut attendre 2004, soit près de 14 ans après l'indépendance, pour que soit promulgué le Heritage Act, qui est en fait le dernier code législatif. L'année 2004, en fait, est une année particulière, puisque c'est une année commémorative et patrimoniale forte, puisqu'elle célèbre le centenaire... Enfin, excusez-moi la formulation. C'est en fait le centenaire du génocide des troupes allemandes sur les populations Herero et Nama. Pour estimation, environ 80% de ces populations ont été décimées entre 1904 et 1907. Et en parallèle, le pays lance le dossier de classement au patrimoine mondial d'un site d'art rupestre archéologique de Twyfelfontein. Donc c'est une année vraiment importante. En réalité, en fait, le pays se démarque pourtant par des initiatives muséales relativement précoces au regard de son histoire et de son histoire politique mouvementée qui se retranscrit et se reflète dans l'histoire même de ses institutions. Donc, dans quelle mesure et sous quelle modalité l'État namibien a-t-il développé, appliqué ou imposé sa politique patrimoniale ainsi définie sur un tissu existant ? Donc, en fait, sur la base d'exemples, nous analyserons les ambitions et visées des projets patrimoniaux implantés tant à Windhoek qu'en région. Et notre approche sera historique avec, en point de rupture, l'indépendance. Voilà. En fait, il ne s'agira pas d'être exhaustif dans notre approche et la présentation du patrimoine. Nous nous focaliserons essentiellement sur les projets muséaux. Voilà, donc nous développons, analyserons les spécificités et particularismes du patrimoine et des musées en Namibie, ce pays à l'histoire trouble et complexe qui a de surcroît connu et subi de nombreuses formes de conflits ouverts, que ce soit des guerres, des génocides, mais aussi des conflits larvés, que ce soit avec l'apartheid ou l'annexion. Qu'en fait, à partir de 1900, en fait, en 1884, cette zone qu'on appelle le sud-ouest africain devient en fait un protectorat allemand. À partir de 1900, des journaux locaux alertent sur l'exportation massive de spécimens d'ethnologie, de botanique, de géologie, qui sont principalement exportés pour le bénéfice de musées allemands. Et l'idée, c'est d'encourager les lecteurs de ces journaux à constituer une collection dans la perspective d'ouvrir un musée. Musée qui ouvre en 1907 dans la capitale, Windhoek, avec l'idée réelle de maintenir sur le territoire des objets qui sont déjà identifiés comme des richesses naturelles et culturelles. Pour mémoire, je vous ai mis que la même année, en 1907, est créé le premier parc national d'Etosha, qui couvre alors une large part de la région du Nord, en fait. Il va quasiment, oula, je vais y arriver, jusqu'à la mer. Voilà, qui est le premier parc créé pour la protection de la faune. Donc, en fait, avec la défaite des troupes allemandes en 1918, en fait, elles perdent aussi donc l'autorité sur ce territoire et les collections du musée sont alors mises en caisse. À partir de 1920, en fait, la Société des Nations donne mandat à l'Afrique du Sud pour administrer ce territoire du sud-ouest africain. Et l'Afrique du Sud va en fait peu à peu l'annexer et l'intégrer comme cinquième province. En 1925 est créée une société scientifique, la Southwest African Scientific Society. Et cette structure, tutélaire et organisationnelle, va jouer un rôle prépondérant pendant des décennies. En fait, très rapidement, en fait, l'administration sud-africaine ne sait que faire du musée et des collections, qui sont alors la seule infrastructure culturelle dont elle est désormais affectataire. Et même si les collections sont alors en caisse, elle va alors déléguer la gestion de ces collections à la société scientifique. Donc, sous un aspect très pragmatique, en fait, les collections ou les différentes expositions qui vont être ouvertes au gré de cette période vont être déménagées pas moins de 11 fois. En 1957, en fait, donc à peu près 25 ans après avoir délégué la gestion de cette collection et de ce musée, l'administration signale par ça un simple courrier qu'elle reprend gestion et possession de ses collections et très rapidement recrute un directeur et qui constitue une équipe qui va aller croissant. Dans les années 80, en fait, ce qui est devenu alors le State Museum, va compter pas moins de 50 employés, dont 19 conservateurs, donc une équipe alors extrêmement étoffée. Mais pour cette période qui va de 1957 à 90, en fait, il est à noter que le musée n'a aucune autonomie juridique ou financière. L'autarcie du State Museum illustre la double politique développée sous le mandat sud-africain, avec à la fois une négation de toute velléité d'affirmation identitaire de la province du Southwest Africa, et qui se traduit directement pour le State Museum par un refus de toute autonomie administrative ou juridique. La direction est directement est gérée et pilotée depuis Pretoria. Et la tutelle se traduit par une économie de moyens et d'ambition, qui est alors accentuée par une ségrégation culturelle et géographique qui coupe le musée de Windhoek de tous les autres musées présents sur le territoire. Mais parallèlement, en fait, cette politique de gestion ne se concrétise pas dans les vitrines des expositions où aucun discours politisant ou partisan n'est développé. Donc, comme je le mentionnais, en fait, le territoire, c'est peu à peu, différentes structures vont se développer dans le territoire. Donc, à partir de 1957, la société scientifique, qui a été créée, je rappelle, en 1925, se déploie dans tout le pays en développant et en ouvrant des branches locales. Alors ces branches vont connaître des destinées plus ou moins variables selon l'activisme ou le désintérêt graduel de leurs membres locaux. Au total, ce sont près de 17 musées qui sont créés dans le pays, principalement établis dans les grandes villes commerciales ou industrielles. Je vous ai indiqué quelques points pour que vous ayez un peu une idée. Alors je n'ai pas mis 17, mais j'ai mis les principales agglomérations. En fait, cette carte et ces créations de musées reflètent ainsi les circuits de peuplement et de développement économique successivement adoptés par les Allemands puis par l'administration sud-africaine. Donc, comment caractériser et comment se caractérisent ces musées de la première génération? Il s'agit concrètement de la transposition du modèle muséal européen, des musées basés sur des objets de culture matérielle, essentiellement des colons. Ce sont des musées d'histoire locale avec une mise en exergue des richesses naturelles, qu'elles soient faunistiques, géologiques, et qui ont souvent attiré et motivé l'ancrage local des populations. Ce qui est particulier, c'est que ce processus de création muséale émane d'une volonté de sauvegarder et de conserver les traces d'une culture matérielle, essentiellement focalisée sur des objets de la vie courante et quotidienne des pionniers et des migrants d'origine allemande ou de langue afrikaans. Les collections sont en fait un rassemblement d'objets familiaux témoignant de leur adaptation aux conditions de vie rudes et ascétiques de la Namibie, qui exposent alors leur propre culture matérielle adaptée à un environnement hostile. C'est un réseau tacite d'ancrage, d'enracinement dans le sol, hein, qui se pérennise par la pierre des musées, par la charge émotionnelle des objets familiaux ainsi préservés, et par des musées bâtis dans le sillage de ces cheminements d'hommes qui ont mis à jour et développé ce territoire. Ainsi, les populations blanches, de langue allemande et dans une moindre mesure afrikaans, en transplantant et en transférant le concept occidental du musée, l'exploitent comme un symbole identitaire en affirmant leur emprise territoriale. Rapidement, concernant le patrimoine immobilier et monumental, il est lui aussi pris en compte, avec là un transfert des cadres juridiques et des outils de gestion mis en place en Afrique du Sud. Donc en 1948 est créée une commission des monuments, et un acte législatif qui encadre le texte juridique est promu en 1969, le National Monuments Act, qui indique voilà tout site archéologique est protégé. Voilà, il y a une grosse mise en lumière sur la protection du patrimoine archéologique. Quel est le bilan à la veille de l'indépendance ? Le musée national et le réseau des musées créés à travers le pays sont en réalité la première institution culturelle implémentée en Namibie, bien avant l'université ou toute autre institution académique. Les modèles du musée et la sociabilité d'érudition, qui est le modèle de la société scientifique, ont été transposés par l'administration allemande et ses compatriotes. Ces institutions ne s'implantent et n'acquièrent une légitimité que par leur diffusion et leur décentralisation à l'échelle locale qui va jusqu'au niveau municipal. Le réseau local des antennes de la société scientifique et de ses musées annexes témoigne alors de sa fertilité et s'appuie sur un contingent de bénévoles. Ainsi coexiste pendant plus de 30 ans un réseau de musées germanophones chapeauté par la société scientifique indépendante et un musée d'État esselé sans relais dans le territoire dont le rayonnement se limite aux frontières de la capitale. Donc le rôle et le sort du State Museum sont en total contraste avec la liberté dont bénéficient les musées en région. Et si l'administration locale sud-africaine maintient un contrôle absolu et une mainmise sur le musée de Windhoek, entravant toute tentative de développement et donc de rayonnement, elle semble curieusement se désintéresser du sort des musées en région. Musée de la ville contre musée du bush, telle pourrait être définie l'amorce de politique muséale menée par l'administration sud-africaine. La politique de zonage, la politique de l'apartheid et de séparation stricte des communautés et des territoires induisent l'absence d'une stratégie globale. Symbole d'un clivage culturel entre populations sensibilisées et éduquées à la culture et institutions et populations locales, l'élitisme du musée namibien sera renforcé, voire accru, par la politique de l'apartheid, qui conduira à entretenir et à accroître les barrières culturelles et l'isolement des populations les unes avec les autres. Donc, seconde partie, la période qui valait de 1990 à 2004, que j'ai choisi de scinder en deux sous-périodes, une première allant de 1990 à 2000 et de 2000 à aujourd'hui. Donc, on observe à partir de l'indépendance, sans qu'il y ait réellement de date qui fasse de date butoir, un foisonnement d'initiatives qui amènera à la création et à ce qu'on pourrait identifier comme une seconde génération de musées, alors même que la Namibie ne semble instaurer aucune politique ou développer de stratégie particulière, se contentant d'accompagner les initiatives enthousiastes. Donc la première partie qui va de 1990 à 2000 s'inscrit dans une forme de continuité. Premier fait marquant, en fait, c'est la création en 1991 de la Museum Association of Namibia. Il s'agit en fait d'une création quasi spontanée qui concrétise des réunions de personnel, de musées, mais aussi de personnes intéressées d'une manière générale. Les notes des différents ateliers traduisent une volonté d'ouvrir le musée aux locaux, aux communautés, d'aller au-devant de ses publics. Ce peut être interprété comme une réaction à la focalisation pré-indépendance sur quelques structures privilégiées par leur attache à la société scientifique et surtout par leur communautarisme affiché, centré sur le réseau des colons et des fermiers locaux. Le parallèle idéologique entre la jeune nation, le discours promu de réconciliation nationale et l'association est alors éloquent. À compter des années 2000, en fait, l'association se positionne clairement du côté de l'initiative et de la promotion. Soit elle est directement sollicitée pour réaliser des diagnostics et aider au développement des structures, soit elle se positionne comme un expert en initiant des projets et en étant partenaire de leur rénovation et de leur création. Aujourd'hui, l'essentiel des musées namibiens adhère à cette association, d'abord pour son fédéralisme en termes de formation, de conseils et d'échanges, qui sont alors rendus difficiles par la superficie du pays, l'association offrant un lieu de rencontre et d'interconnexion. Mais surtout, cette forte adhésion à l'association est implicitement motivée par le fait qu'elle est aujourd'hui l'organe qui délivre les subventions annuelles de l'État aux musées adhérents à l'association. Seul le musée national bénéficie de fonds directs du gouvernement. Aujourd'hui, l'association rencontre de difficultés de positionnement, car si elle a certes soutenu et participé à la création d'une nouvelle génération de musées, elle ne peut se pallier ou se substituer à l'absence d'une politique culturelle et muséale nationale. Qu'en est-il du State Museum, qui est devenu en fait en 1995 le National Museum? Donc l'indépendance semble avoir laissé son empreinte sur le musée de Windhoek, Et les lendemains de fête sont douloureux pour le musée, qui se révèle alors en pleine crise, notamment au niveau de ses personnels. Il y a eu nombreuses démissions et départs, et dont il mettra plusieurs années à se relever. Donc collection, recherche et administration sont enfin réunies dans un unique bâtiment rénové, que vous avez ici en photo, une ancienne école qui est située au cœur de la ville, entre les avenues. Vous avez ici l'avenue principale de Windhoek qui a été renommée Independence et Robert Mugabe Avenue. Et désormais, en fait, le musée est ici. Enfin, l'administration, la partie administrative est ici. Il se décline, en fait, et sont visitables deux lieux d'exposition. Dans la Halte Feste, que vous voyez ici, qui est située exactement en face du bâtiment d'administration, donc sur la colline qui surplombe la ville. Il s'agit en fait d'un ancien fort de garnison allemande qui était le quartier général des troupes. Classé monument national, on trouve une exposition sur l'histoire de la Namibie, avec un premier ensemble qui est une accumulation d'objets disparates allant de reconstitutions de gravures à des objets ethnographiques. Plus loin, on trouve l'indépendance en fait est l'objet d'un traitement muséographique particulier et apparaît comme le résultat du geste révolutionnaire, spontané et apparemment désordonné. On a donc une accumulation d'objets illustrant ce processus d'indépendance avec le rôle majeur qu'ont joué les Nations Unies. Ça peut aller jusqu'à des choses très anecdotiques comme la présentation de sachets de graines de semences que l'ONU a pu distribuer aux populations et qui sont donc estampillés du petit symbole de l'ONU. Pour parvenir enfin, vous avez ici, au symbole de la nation, à savoir le drapeau, l'exemplaire original de la Constitution, ainsi que de l'hymne national, qui sont présentés dans une muséographie austère, imposante et aussi dépouillée que l'espace consacré à l'indépendance est chargé. Second espace d'exposition physiquement dissocié, en fait, le Owella Display Center, qui en fait a été ouvert dans les années 60, mais qui est totalement réaménagé dans les années 90. Où on va retrouver des dioramas naturalistes avec l'emphase sur quelques espèces animales emblématiques, alors du fait de leur endémisme, mais aussi des efforts faits par le nouvel État pour les protéger et les valoriser, comme le léopard, le guépard ou le rhinocéros, et des présentations consacrées aux interactions entre l'homme et son environnement, avec la mise en exergue de pratiques agropastorales, qui sont matérialisées par des dioramas hyper réalistes et des séries d'objets qui offre alors un imagier figé de la Namibie. Depuis le début des années 2000, en fait, ces expositions sont progressivement rénovées et remplacées. Et l'ambition à terme est de parvenir à des représentations muséales pour chaque groupe ethnique reconnu. Donc le National Museum of Namibia, via ses deux sites d'exposition, est alors le lieu de la représentation symbolique de la nation dans ses dimensions culturelles et naturelles. Peu de traces de l'histoire de la Namibie avant l'indépendance, ni sur les différentes périodes d'occupation ou encore sur les problématiques actuelles. Dans cette perspective, le Musée national namibien prône une attitude qui engage à se fondre dans un seul moment historique, l'indépendance, et à oublier le passé. Malgré le changement de régime politique, le Musée national demeure le musée de l'État, le musée vitrine dans la capitale, sans ramification dans le pays. Tout autant, il demeure le seul musée avec du personnel professionnel, travaillant à temps plein et de formation académique et scientifique. Reprenons notre logique et voyons ce qui se passe en région. En fait, le tissu de musée de la première génération, donc créé avant l'indépendance, survit péniblement, et je vous l'illustrer rapidement avec l'exemple du musée de Grootfontein, donc qui est une ville située dans le nord du pays. Donc en fait, dans les années 70, un groupe local se constitue pour sauvegarder et restaurer un vieux fort de garnison allemande. En fait, il y a actuellement trois forts allemands qui sont préservés et celui-ci est un des trois. Et le musée est ouvert en 1983. Il a longtemps été en fait approprié par un couple qui en fermait l'accès et gérait seul, donc c'était une situation très particulière. Et depuis les années 2000, en fait, la branche locale de la société scientifique a repris la gestion de ce musée, assurant son ouverture et son accessibilité. Il est très représentatif et typique de ces musées. D'abord, on trouve systématiquement une juxtaposition de vitrines que vous voyez sur la gauche, illustrant les différentes cultures matérielles des différents groupes, à savoir Owambo, San, Herero ou Wimba, où s'accumulent des objets de facture plus ou moins anciennes et qui offrent une vision en mosaïque du peuplement de la Namibie. et ensuite une partie dédiée à l'histoire locale et économique de la région, avec l'omniprésence en fait du char à bœuf, qui était alors anciennement le moyen de transport, de peuplement et de subsistance pour les fermiers très investis dans le musée, et qui est aussi le symbole du peuplement de ce pays. Donc ce bâtiment en fait rassemble tous les ingrédients de son rejet par la population. Un bâtiment en position dominante, lui encore situé sur une colline, un fort de garnison allemande qui rappelle l'occupation, et des collections majoritairement liées à l'histoire des migrants européens. C'est donc un musée reclus dans son passé, en totale inadéquation avec la réalité des populations actuelles. Après les années 90, très largement soutenue par l'association des musées, en fait, va se développer une seconde génération de musées en rupture avec le modèle traditionnel. Ce sont essentiellement des musées de plein air, des villages culturels qui sont alors portés par les communautés locales qui explorent, via ces modes, les processus de patrimonialisation. On va alors valoriser des pratiques intangibles telles la danse ou pour tout ce qui est lié au SAN, leur découverte et leur connaissance de la nature. Je vous présente rapidement en fait le Tsumed Open Air Museum. En fait, l'idée à chaque fois qu'une idée récurrente, c'est de représenter toutes les populations, les groupes principaux de la Namibie et de reconstituer leurs habitats. Avec ensuite s'adjoignent des pratiques de danse, des démonstrations de danse, de nourriture, de cuisine, de choses comme ça. Dernière période qui va nous intéresser, en fait, la période allant des années 2000 à 2014, où on va aller progressivement vers une rupture. En fait, 11 ans après l'indépendance, soit en 2001, la Namibie publie son programme en matière de culture, avec notamment un texte fondateur en 2001, le Unity, Identity and Creativity for Prosperity, qui définit la stratégie de promotion de l'unité dans la diversité. À travers ce document, la Namibie se définit comme une nation unie et prospère, célébrant la diversité de ses expressions artistiques et culturelles, comme l'est la peau d'un léopard africain. En réalité, ce qui est plus intéressant, c'est que ce texte fait référence à des textes plus anciens, parus dès les lendemains de la dépendance. Alors, la Constitution en elle-même et son article 19 qui assure le respect et la valorisation de toute culture, langue, tradition ou religion. Et plus précisément, un texte de 1992, qui s'appelle « Toward Education for All », où il est clairement indiqué que la culture doit participer à la construction de la nation et explicite pour la première fois le concept de « Unity in Diversity and Mutual Understanding ». En 2004, je vous le disais, est paru le « Heritage Act », le dernier des actes législatifs constitutionnels. Du coup, juste pour mémoire, entre 90 et 2004, en fait, l'acte de 1969 était encore applicable et quelques monuments ont été protégés via ce cadre juridique. Deux outils de gestion sont créés, le National Heritage Council, qui est donc l'organisation administrative, et un registre. Donc on note à partir des années 2000 l'ouverture de projets mémoriaux qui font date, tant par leur muséographie très particulière, que par la rupture qu'ils incarnent dans la manière dont la Namibie perçoit et veut faire percevoir son histoire et sa construction nationale. Tout d'abord le Heroes Acre, qui est situé juste à l'extérieur, à la périphérie de Windhoek, qui est un complexe déclaré National Heritage, composé d'une obélisque de 36 mètres et de la statue d'un soldat inconnu qui a curieusement les traits de Sam Nujoma, le leader emblématique de la lutte, et qui est alors le premier président élu. Le monument, en fait, se veut évoquer la longue oppression et la lutte pour l'indépendance, depuis le génocide allemand jusqu'à la guerre et au processus de libération. Il s'agit d'un complexe grandiose pour honorer les héros de la lutte anticoloniale. Selon la description donnée par le National Heritage et qui a motivé son inscription, il s'agit de promouvoir l'esprit du patriotisme et du nationalisme. Il est inauguré le 26 août 2002 en commémoration du 26 août qui a été en fait le début de la guerre armée de la SWAPO contre contre l'armée sud-africaine en 1966. Ce monument est en réalité de nature et de facture militaire. Le site est lui-même gardé par l'armée et il réduit tout ce processus à la seule phase armée, avec l'emphase sur le rôle de la SWAPO et de son leader emblématique. Dernier complexe muséal et commémoratif ouvert et inauguré, il s'agit du l'Independence Memorial Museum, qui a été inauguré au mois de mars 2014, le jour du 24e anniversaire de l'indépendance du pays. Il aurait dû, en fait, normalement être inauguré en 2010 pour les 20 ans de la dépendance. Toujours pareil, un emplacement incontournable en haut de la colline, avec juste à côté de la halte Feste que vous voyez ici. Voilà. Il s'agit en fait d'un bâtiment triangulaire de 5 étages recouvert de peinture dorée que les habitants de Windhoek en fait ont surnommé la machine à café. Il a été construit en fait par la même société nord-coréenne qui a déjà fait le Heroes Hacker que je vous ai montré précédemment, ou le palais présidentiel. Voilà, donc c'est les architectes officiels du gouvernement namibien. Concrètement, ça se développe par une partie d'exposition. Il y a une réelle difficulté en fait à travailler sur ce projet qui a longtemps été gardé secret. Tout juste sait-on qu'il a été piloté par le ministère des Vétérans et que aujourd'hui le National Museum en retrouve à assurer la gestion sans qu'aucun conservateur du musée ne reconnaisse avoir participé au projet. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir plus d'éléments. Il s'agit en fait de la présentation ici de 3 moments forts de l'histoire: l'histoire de la résistance anticoloniale, l'hommage aux victimes et la phase moderne de la lutte. La muséographie se compose essentiellement de tirages photographiques, d'artefacts et de factures, d'artefacts et de sculptures plus ou moins massives, et tous les objets qui étaient liés à l'indépendance, qui étaient auparavant présentés dans l'Halte Feste, ont été transférés dans ce musée. Donc l'Halte Feste est aujourd'hui fermé. Il est composé aussi également en extérieur d'un certain nombre de statues. Donc devant, en façade, nous retrouvons la figure de Sam Nujoma brandissant la Constitution sur un piédestal, qui n'est pas sans rappeler la même présentation que la figure du cavalier sur laquelle je reviendrai. Plus loin, un peu devant la Halte Feste, en fait, on va retrouver une statue à la mémoire du génocide de 1904 avec un couple rompant les chaînes. En fait, il s'agit a priori d'un projet additionnel de dernière minute pour offrir une vision complète de l'histoire et pour illustrer les victimes de la résistance nationale lors du protectorat allemand. Et en fait, pour installer cette nouvelle statue, il a fallu enlever ce qu'on appelle le Reiter Denkmal, le cavalier du Sud-Ouest, qui est une statue équestre érigée pendant le protectorat allemand, qui visait alors à illustrer et à témoigner de la mémoire des soldats et des civils allemands tués justement pendant la guerre contre les Reros et les Namas. Il a souvent été perçu comme un symbole de la victoire impériale sur les Namibiens. À l'occasion du discours en fait d'inauguration, le président Poamba a expliqué qu'il fallait déplacer pour faire place nette. Ce qui a fait polémique, c'est cette statue en fait, qui est vraiment un emblème assez fort pour la communauté blanche en Namibie, a été déposée la veille de Noël 2013 sous garde policière. Et aujourd'hui, cette statue a été déclassée. Elle a été déclassée au mois d'août. Donc nous l'avons vu, le champ du patrimoine et des musées est investi précocement en Namibie et l'histoire institutionnelle de ces lieux de culture illustre la gestion administrative et politique de ce territoire. Ainsi, conflits larvés et annihilation politique de ce territoire par l'Afrique du Sud transparaissent dans les musées et particulièrement dans la gestion du musée national à Windhoek. Curieusement, ou à la différence de l'Afrique du Sud, le régime de l'apartheid et la ségrégation ne sont pas des sujets exploités dans les expositions. Toutefois, les conséquences et répercussions de l'annexion politique et administrative impactent considérablement l'histoire des musées. Et si les textes officiels assurant le cadrage politique et stratégique apparaissent seulement dans les années 2000, dans les faits, les réalisations muséographiques appliquent et illustrent d'ores et déjà la ligne directrice qui n'est jamais officiellement déclarée de l'unité dans la diversité. Des années 90 aux années 2000, en fait, l'influence de ce contexte, de ce concept de l'unité dans la diversité est manifeste dans les réalisations muséales soutenues directement ou indirectement par l'État, soit au Musée national via son exposition, soit via l'Association des musées qui va soutenir financièrement certaines réalisations en région. Généralement, dans les expositions, le concept est décliné via une vision pacifiée, hors de tout contexte géopolitique, de toute référence culturelle ou historique, avec c'est justement cette juxtaposition des groupes et de leurs objets relatifs, ou au sein des projets de villages culturels, où là encore on retrouve les différentes reconstructions d'habitats juxtaposés, sans qu'aucune velléité identitaire plus arrogante ne soit développée, offrant une vision pacifiée, parfois à la limite du folklore. Depuis les années 2000, en fait, on observe une rupture dans la gestion et la valorisation de ce patrimoine. Depuis l'indépendance, en fait, les gouvernements namibiens successifs ont joué progressivement la carte du patrimoine avec une implication gradiente. On peut distinguer deux phases imbriquées, illustrant la mainmise politique progressive, allant jusqu'à une mise en scène officielle et déclarée d'une vision de la culture ou de la mémoire du patrimoine, faisant fi de pans entiers de l'histoire pour se focaliser sur des séquences précises. L'emphase est alors mise sur des projets commémoratifs de l'indépendance, mais avec une polarisation anachronique autour de séquences historiques, avec d'une part la glorification de la lutte armée menée par la SWAPO et de la figure tutélaire du leader Sam Nujoma, et d'autre part l'accentuation et la réduction de la période d'occupation allemande au massacre de 1904. Au prisme des réalisations muséales, l'histoire de la construction de ce pays se concentrerait dans trois séquences émotionnelles. Le génocide et les massacres de 1904, la lutte armée de 66 à 90 menée par la SWAPO, et enfin l'indépendance, où on note une mutation d'une vision d'abord pacifiée basée sur le rôle de l'ONU et avec une mise en valeur des symboles unificateurs du pays tels que l'hymne national et le drapeau, à l'incarnation dans des figures politiques militaires, principalement autour de Sam Nujoma. Pour autant, le long processus d'autonomisation de ce territoire, qui est désormais la Namibie, est profondément plus complexe, marqué de nombreux conflits armés, larvés, de longues périodes d'occupation, d'enclavement politique, d'oppression et de négation, qui sont tout aujourd'hui volontairement non traités. Je vous remercie de votre attention.
Merci Anne Nivard. Donc on a 10 minutes, 15 minutes de questions, s'il y en a.
Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été intéressé par la lecture que vous avez faite de la démarche du gouvernement. Je connais bien le musée, je connais bien la démarche namibienne, pour avoir travaillé avec eux aussi pendant plusieurs années. Je crois que ce qui se passe en Namibie est un peu la nouvelle approche de ces pays qui sortent justement de ces situations de conflit où leur histoire et leur culture a été un petit peu niée. Donc la démarche, quelque part scientifiquement, elle se justifie. Et d'ailleurs, on voit dans le musée où très volontairement la présence africaine est mise sur le côté en réaction à ce qui s'est passé avant l'indépendance. Très justement, aujourd'hui la Namibie s'appelle « The Land of the Braves ». C'est un peu pour ramener cette africanité qui n'a pas existé avant, qui ne se passe pas simplement en Namibie, mais qui se passe aussi dans d'autres pays. Il existe aujourd'hui un programme qui est développé aussi, appuyé par l'UNESCO, qui est un peu ce programme qui essaye de préserver ce type de patrimoine qui est issu un peu de cette période de libération, ce qu'on appelle Liberation Heritage, donc qui est un programme qui existe et pour lequel la Namibie est très engagée. Ma question à vous ici, c'est, je comprends votre démarche scientifique de dire l'histoire n'est pas respectée. Effectivement, dans l'approche aujourd'hui qui est promue par le musée ou par la démarche. Mais est-ce que dans cette approche, on ne peut pas aussi justifier pourquoi l'histoire a changé? Pourquoi il y a ce positionnement? Peut-être qu'à l'avenir, l'histoire va se rééquilibrer. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il faut réparer d'une certaine manière une injustice d'annihilation ou de non-reconnaissance de toute une histoire, parce que les occupants de cette période ont cherché simplement à contrôler une population. D'ailleurs, on retrouve ça aujourd'hui dans d'autres endroits. Peut-être que cet équilibre, ce rééquilibrage de l'histoire n'est pas la responsabilité de cette génération de dirigeants aujourd'hui qui, elle, doit faire des choix et doit faire des priorités et cherche effectivement à, on voit avec la construction de Heritage Acre, par exemple, où Sam Nujoma est le héros d'une certaine manière et ils se sont tous battus. On a une génération de dirigeants, même les dirigeants du musée national sont des anciens combattants. Mm. Je les connais, ce sont des amis. C'est des anciens combattants dont dans leur tête, ce sera d'abord ça. Et c'est peut-être la génération d'après qui essaiera de rééquilibrer d'une certaine manière les choses. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que il y aurait une nécessité peut-être de ne pas très vite tirer des conclusions à ce stade-ci, mais de chercher encore à comprendre justement pourquoi il y a cette démarche politique, parce qu'on voit très bien que je ne pense que le musée, la culture est utilisée comme une démarche politique ici. La culture ici est utilisée comme une démarche politique. La culture peut aussi être prise comme un otage. C'est peut-être le cas, mais le temps nous dira.
Voilà. Si je puis juste, enfin, il s'agit nullement de tirer des conclusions, simplement de voir une évolution. Et effectivement, en fait, il y a des choix qui sont faits, enfin, que je ne me permettrai pas de juger ou de commenter, simplement de les présenter, qu'on ne présente pas une histoire dans sa continuité. Et effectivement, peut-être est-ce trop tôt, peut-être n'est-ce pas cette génération qui va mener ce travail. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment ce réinvestissement en fait, de ces institutions et du musée. Et le fait de choisir, par exemple, dans le dernier complexe qui a été créé, de juxtaposer les mots mémorial et muséum, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, ça témoigne aussi d'une démarche. Et puis de... C'était quand même finalement un pays où il y a relativement de nombreux musées à travers le territoire qui étaient totalement appropriés, et ça reste encore. Et de voir depuis 1990, en fait, ce foisonnement d'initiatives qui est un réel investissement, en fait. Vous allez partout, n'importe quelle communauté va vous dire « on veut notre Living Museum, on veut notre Cultural Museum ». Et de voir aussi que à Windhoek, en fait, ça bouge, il y a des choses qui évoluent. L'Independence Museum, enfin les trois premiers jours de l'inauguration, ils ont reçu... accueilli plus de 5000 visiteurs pour une ville comme Windhoek, c'est quand même phénoménal. Donc il y a ce qui est intéressant, c'est le mouvement et de percevoir que depuis les années 2000, en fait, il y a une accentuation forte et que on va sur ce qui est proposé, ce qui est donné à voir est beaucoup plus marqué, beaucoup moins policé en fait. Le fait de enfin parler du génocide de 1904, de mettre l'exergue sur le rôle de Sam Nujoma, la lutte armée, c'est des choses qui étaient peut-être pas nécessairement possibles avant. Ça l'est, et voilà, peut-être une étape suivante, ça sera d'avoir une vision, peut-être une histoire sur un temps plus long. Mais voilà, c'est nullement de jugement de ma part, ni. Surtout que, enfin oui, les gens du musée national avec qui on collabore maintenant depuis 6 ans sont des gens, enfin, vraiment formidables et qui ont à cœur de, justement, de se réinvestir et d'être présents partout dans le territoire. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce réinvestissement et cette vraiment dans le musée, dans toutes ses formes, en fait.
Moi, je m'aimerais demander que vous apportiez un peu d'éclaircissement sur aujourd'hui comment la gestion institutionnelle elle est faite. En fait, si on regarde, il y a trois grandes institutions en fait qui gèrent un peu le patrimoine. Donc, vous avez d'un côté le Conseil national du patrimoine, de l'autre, vous avez le Musée national lui-même qui joue un rôle important, et puis vous avez l'association des musées de l'autre côté. Est-ce que sur le terrain, il n'y a pas un conflit de rôles, finalement, qui fédère tout ça, à part le réseau régional des petits musées qu'on trouve un peu partout, qui fédère un peu la gestion aujourd'hui des musées en Namibie, en fait. Comment c'est vécu?
Vous pointez voilà. Exactement... alors, toutes ces différentes organisations sont en fait sous l'autorité du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des sports, si je suis exacte. Il y a effectivement... Alors, le Heritage Council a sa propre vocation, donc ne gère pas les collections et les musées. Par contre, il y a des interactions fortes avec le musée national, notamment parce que les conservateurs sont très impliqués dans le comité scientifique. Par contre, effectivement, il y a des divergences, voire parfois des oppositions et des vraies tensions entre le Musée national et l'Association des musées, qui a clairement pris un positionnement très, comment dire, proactif depuis plusieurs années. Alors, concrètement, ils ont des fonds et des subventions qui leur permettent quand même d'orienter ou de certains choix en affectant des subventions ou pas aux différents projets. Et le Musée national, en fait, qui a une vraie compétence scientifique, un savoir-faire, une reconnaissance des autres musées, mais qui, quant à lui, n'a pas de moyens. Donc, en fait, il y a une vraie ambiguïté où les musées en région vont vers le Musée national, mais qui n'a pas les moyens humains ou financiers de répondre et qui donc se retourne vers l'Association des musées. Alors, l'Association des musées, elle est aussi dirigée par quelqu'un qui a... par un Anglais, qui pilote aujourd'hui. Donc, il y a des vraies divergences et il y a des, enfin, concrètement, ça se traduit par des vraies oppositions sur le terrain. Et des, j'irai pas jusqu'à des conflits, mais en tout cas, c'est des, il y a des vraies dissensions, en fait. Et vous avez pointé exactement... Finalement, le Musée national reste toujours dans cette position d'être... une structure et une figure forte, mais qui a des moyens limités. Pour vous donner un exemple, par exemple, l'Association des musées avait longtemps soutenu un projet qui devait ouvrir à Valvisbé, qui devait être un musée de l'apartheid et du et sur les toute la, les travailleurs, avec les travailleurs qui venaient du Nord, qui devaient franchir les zones de police, et qui était un projet très soutenu par l'Association des musées, projet qui, à ma connaissance, n'a pas vu le jour. Mais voilà, il était aussi extrêmement investi dans toutes ces dans tous ces projets de musées de villages culturels. Alors, c'est une notion extrêmement foisonnante. Certains sont soutenus par des ONG, certains sont montés par par des communautés locales, certains l'association des musées est très impliquée. Voilà, il y a un vrai foisonnement d'initiatives et il est parfois complexe de s'y retrouver, de savoir quels sont les enjeux derrière et puis les quelle va être la pérennité aussi de ces projets, parce que c'est quand même aussi une vraie question après de la maintenance et du fonctionnement de ces structures, en fait. Elles ont souvent aussi été vues comme une sorte d'Eldorado, en fait, de dire on aura notre village culturel, donc économiquement on va pouvoir attirer des touristes et les faire rester. Et un certain nombre de communautés ont été très désappointées, en fait.
Bonjour, j'avais une question, mais vous avez partiellement répondu... par rapport à la distinction entre ce musée national et le réseau de, assez important de ces structures, et de, parfois d'ailleurs très récentes, que, dont vous avez parlé, qui donnent une impression de dynamisme global, par rapport à la fois aux intentions de ces structures, en termes de visiteurs, de public justement, et éventuellement des résultats à communiquer par rapport au musée de la capitale, qui est la vitrine de la nation dans sa diversité, et effectivement toutes ces structures foisonnantes avec... simplement l'idée de permanent, de quelque chose de permanent ou semi-permanent, ou alors des événements. Enfin, je posais un peu la question de la vie de ces structures.
Alors, sur les fréquentations, c'est assez complexe de vous répondre. On avait lancé l'idée, justement, avec le Musée national et l'association de faire une sorte d'enquête pour avoir des retours. Ça n'a pas abouti, donc c'est complexe de... Le Musée national a, sur ces... Enfin, anciennement deux sites, alors voilà, juste avant 94, avant 2014, donc si on considère l'Altefeste, l'Ouella, c'est 15 000 visiteurs, c'est relativement peu fréquenté. Les gens passent à Windhoek, en fait, quand ils viennent, et c'est essentiellement des étrangers. Et les musées en région, c'est extrêmement divers, ça va dépendre de leur vraiment de leur localisation, mais c'est faible.
L'idée économique est plutôt tournée vers le tourisme que...
Ils sont très tournés vers les touristes, en fait. Par exemple, toutes les villages culturels ou les musées de plein air sont essentiellement tournés et adressés à destination des touristes. En fait, c'est vraiment le public cible qui est, qu'on veut attirer, en fait. Les musées, on va dire, anciennement créés, on va dire cette première génération, sont plus ouverts et sont plus... sont volontiers ouverts, en fait, aux scolaires, un certain nombre en fait proposent par exemple ont des salles d'accueil pour les enfants après l'école pour qu'ils puissent avoir un lieu pour faire leurs devoirs, travailler avant de rentrer chez eux. Il y a un certain nombre de musées, je pense notamment au musée de Rehoboth qui est lié à la communauté Baster, qui est une communauté métisse, qui accueille les enfants après l'école. Les parents travaillant essentiellement sur Windhoek, donc à 100 km, ils leur proposent. Et un certain nombre d'autres musées en fait ont cette fonction en fait de d'être ouverts et d'accueillir les écoliers pour les encourager aux études en fait et les accompagner. Mais d'une manière générale, sur la fréquentation, c'est complexe de... J'ai pas de chiffres, en fait.
Peut-être une dernière question, et puis il y aura une pause.
Oui, merci. En matière d'architecture, est-ce qu'il y a des programmes de conservation ou de mise en valeur de patrimoine traditionnel de l'architecture vernaculaire, par exemple? Merci.
Il n'y a pas, à ma connaissance, de programme réellement visant à restaurer ou à rénover. Par contre, justement, l'association des musées avait lancé, il y a une dizaine d'années, un programme qui s'appelait Heritage Hunt, qui visait en fait à informer le plus grand nombre et à les encourager à déclarer spontanément des sites, des objets, ça pouvait être un arbre remarquable, un site, pour justement accroître la visibilité de ce patrimoine et engager des démarches d'inscription et de protection justement du patrimoine du plus grand nombre en fait. Ça a moyennement marché, mais en tout cas il y avait une vraie démarche qui se faisait en concertation avec les différents organismes. Il y a, je vous disais avant l'indépendance, il y avait 125 sites protégés. Il y en a entre à peu près 25 qui ont été proclamés depuis l'indépendance. Et c'est essentiellement des sites architecturaux monumentaux, en fait, et puis des sites archéologiques. Mais pas forcément d'habitat à proprement dit.
Merci à tout le monde. Donc, on a 15 minutes de pause et on se retrouve ici pour la deuxième partie de la session de ce matin.